Qu'est-ce que vous pensez à propos de la technique moderne qui était, vous savez, l'exposition l'année dernière? Vous avez vu des icônes?
Quoi, les icônes à la mesure, là, des
oui, bébés? Oui. La technique moderne maintenant. Elles sont les plus petites, mais.
Bah, c'est-à-dire que, si tu veux, là, donc, c'était une exposition d'icônes, je ne sais plus comment c'est en russe, à la taille. C'est-à-dire on peint les icônes selon les mensurations du bébé qui naît. Mais ça, c'est un truc, excusez-moi de vous dire les choses simplement, moi je pense que c'est purement et simplement superstitieux. C'est gentil, c'est sympa, c'est symbolique si tu veux, mais bon, ça n'a pas
c'est
du tout.
Symbolique.
C'est juste symbolique. Non, mais si tu veux, ça, l'icône n'a pas plus de force à cause de ça. Ah oui, mais non, mais tu sais. Mais pourquoi Pourquoi pas simplement lui faire peindre une icône de son saint patron, une belle icône de son saint patron? Ça, c'est beaucoup plus important. Que ce soit ses mesures, ça n'a absolument aucun. Comment te dire, c'est vraiment. Ça veut dire qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a tellement de choses déjà dans l'icône, tu veux rajouter ça en plus, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de.
Il n'y a pas beaucoup d'humilité, je crois, dans ça, parce que c'est avec tout l'amour qu'on a pour un enfant, c'est l'enfant de Dieu. Donc, comme le but, c'est qu'il ait l'image de Dieu, je souhaite pas avoir les caractéristiques de mon enfant, mais plutôt qu'il se rapproche de quelque chose.
Oui.
Je crois, enfin,
l'important, c'est qu'il devienne ressemblant à Dieu. Vous savez que les saints ascètes, on l'appelle prepadomni, ça veut dire les traits ressemblants, ça veut dire les traits semblables au Christ.
Souvent, je ne sais pas si vous avez cette impression, quand tu regardes les moines à Athos, ils ont tous quand même des visages différents lorsqu'ils viennent. Et curieusement, avec le temps, c'est comme une sculpture. J'ai l'impression que les gens se ressemblent tous. Et c'est pour ça que je voulais poser la question à Émilie, c'est que quand tu vois, pourquoi faut-il absolument, alors que Dieu a fait combien de milliards d'êtres complètement différents, on est tous différents, mais lorsqu'on commence à travailler sur nous, curieusement, il y a des traits communs qui viennent. Alors on peut être blond, roux ou brun, plus ce travail se fait, alors c'est peut-être une illusion que j'ai.
Non, pas du tout. Il y a un certain sens du stéréotype dans l'icône. Hein. Oui. C'est-à-dire que, en fait, souvent d'abord parce que, comment dire, on n'est pas capable d'avoir des portraits vraiment personnels de tous les saints.
Oui.
Parce que, bon, il y a beaucoup de, comment dire. En principe, faire une icône suppose qu'on fait déjà des portraits, d'abord, oui. Ou bien du vivant, ou bien à la mémoire. Alors, selon les souvenirs des contemporains, des gens qui les ont connus, et ensuite on laisse le portrait et on fait une icône. C'est-à-dire, l'icône n'est jamais le portrait. Maintenant, on a tendance à faire des icônes qui sont des portraits ou des photos pures et simples, et ça, c'est pas juste. Donc, en fait, cette abstraction du visage des icônes est très très importante. Parce que vous vous souvenez que quand le Christ apparaît à ses disciples après la résurrection, ils ne le reconnaissent pas. Et c'est Saint Jean qui, dans son cœur, sent que c'est le Christ et qui dit à Saint Pierre, c'est le Seigneur. Et du coup, Saint Pierre plonge. Et puis, il y a un autre texte où il dit, il est apparu à deux apôtres sous une autre forme. En hétéramorphé, en grec. Hein. C'est-à-dire, non pas qu'il avait la forme d'un animal, pas du tout, mais disons que son visage avait changé. Parce que, précisément, il était vu selon sa divinité, il était vu éternel et non plus selon les caractéristiques telles que les incroyants pouvaient le voir. Donc nous aussi on peint pas le saint tel que les incroyants pouvaient le voir. On peint le saint tel que les yeux de la foi le voient, c'est-à-dire tel qu'il est dans le royaume après la résurrection, tel qu'il est maintenant.
Donc,
les caractéristiques. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas représenter dans les icônes. Par exemple, les yeux bleus, les cheveux blonds, tout ça, on ne doit pas le représenter. Ce sont les caractéristiques charnelles corruptibles. Ça va mourir avec la chair pécheresse corruptible. Voilà. Donc, on simplement, c'est pour ça que ça s'appelle une iconographie, hein, c'est une écriture, c'est-à-dire qu'on ne représente pas, mais on décrit avec des signes. C'est le signe du nez, le signe des yeux, le signe de la bouche. Alors les cheveux sont bruns, gris, pour signifier l'âge à laquelle le saint est retourné à Dieu. Voilà. C'est le signe d'un œil, le signe d'un nez, le signe d'une bouche. Et c'est très important aussi justement pour que ce qui est exprimé par l'image, ce soit la sainteté et non pas les passions. Parce que si on représente le caractère corruptible et corrompu, forcément, hein, de l'être, à ce moment-là, les passions s'y mettent. Alors que si on représente d'une manière très, comment dire, sobre, à ce moment-là, il y a une possibilité. Comme nous n'avons pas l'expérience de la sainteté, hélas, Donc, comme des gens comme le père Grégoire Coupe, par exemple, qui était vraiment un très grand iconographe, ou comme Saint-André Roubloff, mais c'est-à-dire, quand on n'a pas ça, on se contente d'exprimer le minimum nécessaire pour qu'on reconnaisse de quoi il s'agit. Donc on ne met pas une expression dans l'icône, on ne met pas des sentiments dans l'icône, le minimum, et ce qu'on doit faire, c'est la sobriété. Voilà. Et donc comme ça, forcément, le visage perd ses particularités. Mais c'est très important, parce qu'en fait, bien sûr, nous savons qu'est-ce que c'est la personne, parce que nous avons à chaque fois une hypostase par individu. Katia, voilà, c'est toujours deux hypostases. Bon, et deux individus et deux hypostases. Mais dans la Sainte Trinité, il y a trois hypostases avec un seul visage. Il n'y a que le visage du Christ. Il n'y a que le visage du Christ, mais il y a trois personnes. Le Père et l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'en fait, la personne n'est pas entièrement... Comment dire? Le visage ne rend pas compte de la personne. La personne est bien plus encore que le... Voilà. Et donc, en fait, et alors en plus, il y a un autre aspect, c'est que tous les saints deviennent ressemblants au Christ. C'est-à-dire, petit à petit, c'est le visage du Christ qui remplace tous les visages. Aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Donc, et aussi, il n'y aura plus ni femme ni homme, mais tous seront comme les anges dans les cieux. Donc voilà. Voilà. Merci. De rien.
Intéressant. As-tu une bibliographie à nous recommander?
Ah ben bien sûr, si vous avez le courage, il faut lire la théologie de l'icône d'Ouspensky. Bien sûr.
En plus, en promotion, voilà. En 50%.
Il faut l'acheter maintenant parce qu'il est très cher.
Ici, à la caisse? Ouais.
Non.
À l'église?
Aux éditions de Sœurs.
Mais le livre d'Ouspensky, il est très difficile. Pourquoi? Parce qu'Ouspensky était vraiment un père de l'Église. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais un mot de trop. Il disait le nécessaire et rien d'autre. Donc c'est très très difficile, il faut le lire attentivement, il faut prendre chaque phrase à la lettre, enfin, bien lire chaque phrase.
Mais c'est en français aussi.
Ben, il existe en traduction russe. On l'a aussi en traduction russe. Pas complet, mais on l'a. Oui, il faut lire ça, bien sûr. Mais pas en promotion. Je crois si en promotion aussi.
Personne en promotion.
Il y a la procure aussi.
Oui,
à
la
théologie de l'école.
Autrement, bien sûr, il y a des tas de bouquins sur les icônes que vous trouvez partout, qui sont tous plus ou moins. Alors, il y a un autre livre aussi qui est très très bien, mais qui coûte plus cher parce qu'il y a beaucoup de reproductions. C'est un grand volume qui s'appelle Le sens de l'icône. Et c'est écrit par Ouspensky et Lossky, vous savez, Vladimir Lossky, le grand théologien. Et donc, ils ont fait, c'est un recueil d'icônes commentées. Donc, il y a une image, il y a une introduction sur la tradition par Vladimir Lossky, qui est un grand chef-d'œuvre. Et ensuite, chaque icône est commentée tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Donc, ça aussi, c'est très très bien. Parce que à travers tout ça, petit à petit, on comprend ce que c'est. Mais par exemple, dans le gros livre d'Ouspensky, la théologie de l'icône, il y a un chapitre qui est concerné, qui s'appelle l'icône aujourd'hui. Par exemple, il suffit de lire ça, vous laissez tout le côté historique qui peut être quelquefois difficile, et là, il donne toutes les tout ce qu'il faut.
C'est déshydraté.
Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, quand je vais à Kiev, je suis toujours triste parce que dans la lore des grottes, il y a beaucoup de démons.
C'est l'horreur. Sont
pas, c'est l'horreur. J'ai le père représenté. En fait, pourquoi, d'où est-ce que ça vient?
Ça vient de l'Occident.
De quoi?
À Kiev. C'est-à-dire que malheureusement, l'église de la Dormition à Kiev, vous savez que c'est la plus première église orthodoxe russe qui a été construite. C'est-à-dire qu'ils sont les constructeurs, les 12 architectes et peintres grecs qui ont construit l'église de la Dormition à Kiev, ils sont canonisés. Tu sais, je te l'ai dit, je les ai retrouvés. Ils sont fêtés le 27 février, et donc dans l'ancien... Et donc, mais malheureusement, cette église a brûlé au 16e ou au 17e siècle, je ne sais pas. Et ensuite, ça a été reconstruit dans le style Saint-Sulpice, le pire, qui était très à la mode en Russie à l'époque, c'est-à-dire le style occidental au 19e siècle, ou au 18e, je ne sais plus.
Baroque,
voilà. Et là, l'église orthodoxe a complètement oublié, c'est ce que je vous disais, mais complètement oublié. Et d'autant, c'était d'autant plus, comment dire, mal, si je puis dire, qu'en même temps, il y a eu des conciles de l'église russe pour condamner le fait de représenter Dieu le Père. Je ne sais pas si c'est le Stoglav ou encore un autre concile, le concile de Moscou, dans lequel on a condamné ça. Par exemple, il y a un concile qui a aussi condamné le fait de peindre les icônes sur les objets cassables, sur la porcelaine. Alors maintenant, on en voit partout les porcelaines avec des icônes, alors que c'est interdit par un concile. Mais ça, c'est les Russes, à l'époque, n'avaient pas beaucoup de respect. C'est la période synodale. Donc les décisions de l'Église n'étaient pas vraiment prises au sérieux par l'État et par la haute société, qui prenait beaucoup plus au sérieux tout ce qui venait d'Occident. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu la Révolution aussi. Hein, parce que tout ça, c'était un tout.
Mais ça continue maintenant? Parce qu'ils font des écoles ici, les moines.
Non, mais maintenant, oui. Mais maintenant, le problème, c'est que, si tu veux, il faut qu'il y ait aussi quelques exemples d'autres choses. Donc, d'après ce que j'ai compris, en Ukraine, tout a été reconstruit au XVIIIe et au XIXe siècle. Et donc, devant leurs yeux, ils n'ont que des choses comme ça. Et alors maintenant, c'était avant la Révolution, donc c'est bien. Voilà. Alors que, malgré tout, c'était le père Serge qui disait ça. Il disait, c'est l'Église russe, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, qui a aussi, elle a joué un rôle, elle a produit la Révolution aussi. Pas l'Église comme Église, qui est sainte, bien sûr. Et il y a eu le saint Hiérarque et les saints Starets et les saints Starcy, donc bien sûr. Mais en même temps, il y avait, dans la période synodale, une conception de la vie chrétienne et de la vie de la société chrétienne qui était un peu fausse. Par exemple, à l'époque, il y avait un manuel, le manuel du bon sujet du tsar. Ça, c'est Père Serge qui m'a raconté. Tout à fait. Et donc, ce bon manuel du sujet du tsar, l'évangile était commenté avec les commentaires de l'État. Et alors, par exemple, il y a le passage où le Christ dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, va et prends plusieurs témoins avec toi. S'il ne vous écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. » Père Serge commentait ce qui veut dire « Ça veut dire que tu t'en mêles plus. C'est plus ton affaire. Bon. » Mais dans ce livre-là, il avait marqué « S'il n'écoute pas l'Église, alors va et dénonce-le au ministère de l'Intérieur. » C'est des choses, il y avait des choses comme ça, voilà. Et aussi, bien sûr, la peinture.
Et le numéro de téléphone.
Voilà. Et la peinture à la manière occidentale, évidemment, n'était pas c'est une peinture. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'icône, c'est très important. Parce qu'une icône qui est juste, elle engendre une vie spirituelle qui est juste à tous ceux qui la regardent et qui prient devant. Donc, si tu es habitué à voir les icônes Saint-Sulpice, c'est une autre vie. Tu comprends? C'est une autre vie, c'est une autre manière d'être. C'est une autre manière d'envisager le monde et le monde futur. Et donc, en fait, c'est des icônes qui répandent l'hérésie. Et l'hérésie vivante, l'hérésie en acte, pas simplement l'hérésie en parole et en hérésie. Bon, une certaine, souvent, on peut être sauvé quand même. On peut être sauvé, mais on peut être sauvé, c'est-à-dire qu'il faut dépasser ces choses-là. C'est des choses qui n'aident pas. C'est pour ça qu'en ce moment, je me bats pour que notre Église, notre future Église soit en accord avec ce que doit être l'icône. Et à ce moment-là, si vous voulez, la question de l'esthétique est dépassée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de faire quelque chose de beau ou de faire quelque chose de pas beau. On cherche à faire quelque chose qui est juste. Et si Dieu donne en plus la beauté, gloire à Dieu. Et ce n'est pas d'abord ça qu'on cherche. Parce que le fait de chercher la beauté, c'est extrêmement dangereux. On cherche l'égoïsme finalement. Parce que qu'est-ce qui décide que c'est beau? C'est le plaisir. Et c'est donc forcément une démarche égoïste. Et c'est pour ça que, par exemple, en Italie, il y a une sorte de renaissance au XIIIe siècle, par exemple au moment où on a construit l'église Saint-Marc. Vous connaissez l'église, la belle église de Saint-Marc de Venise, donc avec de très belles mosaïques, qui étaient faites sous l'influence, bien entendu, de Byzance, à cause de la prise de Constantinople, 1204. Et donc il y avait une influence et ça a donné une certaine beauté, mais c'était avec l'esthétisme. C'est pour ça que c'était pas juste. Et du coup très très vite ça a dégénéré. La Renaissance italienne est un espèce de feu d'artifice sur le plan esthétique, mais pas du tout sur le plan spirituel. Et à quoi est-ce qu'on voit ça par exemple? On peut le sentir dans l'ensemble. Mais par exemple, on a Saint-Marc, le transfert des reliques de Saint-Marc à Venise par exemple. Et du coup, on a une mosaïque sublime de beauté, un grand bateau avec une grande voile qui a une forme merveilleuse, avec trois pêcheurs qui jettent des filets dans l'eau avec un rythme, c'est absolument superbe. Et derrière, un tout petit Saint-Marc. Et ça, c'est quelque chose qui est anti-iconographique. C'est-à-dire, l'icône, justement, elle n'est pas réaliste. Et elle est quelquefois, on l'accuse, les gens qui ne comprennent rien, accusent l'icône d'être simpliste ou fausse, parce qu'on va représenter le saint en grand, et puis ses persécuteurs à côté en tout petit. Ou par exemple, saint Daniel dans la fosse aux lions, on le représente très grand, et les lions tout petits autour. Mais c'est parce que c'est ça qui est l'important. Voilà. Si on donne trop d'importance aux lions, c'est pas... Voilà. Donc c'est là où on voit l'esthétisme. Et c'est ça qui est très très dangereux à l'heure actuelle dans l'Église. Aussi bien en Russie, en Serbie, en Grèce. Il y a un esthétisme, précisément, parce qu'il faut arriver à faire la différence entre la beauté spirituelle et la beauté charnelle. Et ça, c'est toute une ascèse pour ça. Toute une vie. Et c'est pour ça que pour arriver à accéder à la beauté spirituelle, il faut commencer par renoncer à la beauté charnelle. Sinon, quels moyens on a? Qu'est-ce qui se passe? Comment? On ne peut qu'offrir à Dieu ce sacrifice de manière à ce que lui-même nous donne ce charisme de la beauté spirituelle. Sinon, on n'a pas de moyens. Ou bien sinon, ça veut dire qu'on fait une espèce de platonisme à la manière occidentale et on dit que petit à petit, on s'élève, etc. Mais ça, c'est du platonisme. C'est-à-dire, on s'élève. Vous connaissez tout ça, peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire, la théorie des abbés de Cluny, vous connaissez, l'abbaye de Cluny a eu un retentissement, enfin, un rayonnement extraordinaire en Occident et donc était extrêmement attaché à la beauté et à la beauté des objets liturgiques, etc. Et alors la théorie, il y a un abbé de Cluny qui a écrit tout un livre sur ce sujet et qui disait qu'à partir des belles choses, petit à petit, on s'élève vers les choses spirituelles. Et donc à partir des pierres précieuses, on s'élève vers les astres, et à partir des astres, on s'élève vers les idées, et à partir des idées, on atteint Dieu. Mais ça, c'est une démarche platonicienne, c'est la théorie de Platon. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'esthétique au sens philosophique orthodoxe. L'esthétique philosophique orthodoxe, c'est quoi? C'est la croix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de beauté spirituelle sans le renoncement, la mort, accepter la mort. Et ça, c'est absolument... C'est pour ça que, la culture byzantine et la culture russe ancienne sont des cultures si sobres. Précisément parce qu'il y a un renoncement complet à tout ce qui satisfait les passions, les sentiments et la chair. Et donc on accède à ce moment-là à autre chose. Et vraiment, oui, c'est la mort. Et c'est la mort, et c'est un saut on se jette dans le vide et on ne sait pas si on va être récupéré. Hein, on accepte de mourir. Voilà. Et puis il y a un miracle qui se fait et Dieu donne autre chose. Mais ça demande la foi. Ça demande un renoncement complet et la foi. Après, c'est la résurrection. Bon, et maintenant, sur toutes ces belles paroles, qui a encore quelque chose à demander?
Oui, mais sans les cours de technique de peinture.
Là, si tu veux apprendre la technique de la tempéra à l'œuf, tu peux aller partout. Tu apprendras beaucoup mieux en Russie, aux Beaux-Arts, partout. Pas la technique de la tempéra. Non, j'apprends ce que je ne sais pas moi-même, c'est-à-dire que je partage ce chemin avec quelques personnes d'essayer d'arriver à peindre des icônes. Oui. Mais c'est très très c'est pas du tout médiatique. C'est-à-dire qu'on va tellement lentement, on est tellement misérable, on fait des choses qui sont tellement sans intérêt que c'est pas, on va pas demain faire une exposition et dire regardez les belles choses qu'on fait. Malheureusement, non, c'est pas ça. Chacun fait comme il peut. Mais enfin, tout le monde est bienvenu, hein. Si vous voulez tous venir peindre des icônes demain, gloire à Dieu. Mais ce sera dur, hein, si vous voulez tous.
Par contre, il y a des cours de dessin.
C'est pour les enfants.
Ah bon?
Je pense que toi, tu sais très bien dessiner. Tu n'as pas besoin de... Tu es un peintre professionnel, donc tu n'as pas besoin... Non. Ah, voilà, tu es fait... Non, mais viens, essaye. Et puis, il faut vous dire qu'il y a quand même... beaucoup de manières d'enseigner l'iconographie différentes. Par exemple, Anne Bogenhardt-Filippenko, qui enseigne le jeudi ici, elle a appris avec Ouspensky d'une manière tout à fait différente de moi, et donc elle fait peindre tout de suite, c'est très différent. Moi, je fais comme Ouspensky m'a appris à moi, C'est-à-dire, on dessine beaucoup, on essaye de découvrir qu'est-ce que c'est l'icône en dessinant. Et je dois dire que ça donne des fruits. Je vois bien que ça donne des fruits. C'est-à-dire que quand tu as vu ce qu'elle fait, Valérie. Et par exemple, quand on essaye d'approfondir, c'est-à-dire d'apprendre à voir, tu vois. En fait, on voit les icônes anciennes, mais on ne les voit pas. Enfin, on ne sait pas ce qu'on voit exactement. Et on s'aperçoit de ça quand on commence à dessiner. Alors, on essaye de dessiner ce qu'on voit, puis on voit que ça n'a rien à voir avec ce qu'on regarde. Donc, petit à petit, on apprend à voir. Et petit à petit, on apprend qu'est-ce que c'est l'icône. Parce qu'en fait, si tu veux, étant donné qu'il n'y a pas de règles, et qu'il n'y a pas non plus un style obligatoire, qu'il y a mille styles, mille manières dans l'Église. Tu prends le style du Sinaï, le style de Moscou, le style de la Grèce crétoise, tu as 36 000 styles. Et donc, aucun n'est plus iconographique qu'un autre. Et à chaque fois, c'est une manière d'exprimer les choses particulières. Donc ce qu'il faut, c'est petit à petit arriver à se familiariser avec ça, en dessinant et en apprenant quel est le point commun de tout ça. Et c'est vraiment un mode d'expression de la vérité. Et après, tu ne peux plus rien faire d'autre. Après, on ne peut plus exprimer les choses. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de moyen d'exprimer la vérité autrement que comme ça. C'est une vision du monde, et c'est vraiment quelque chose qui est révélé par Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que l'homme a pu inventer. C'est très, très spécial. Et c'est pour ça que même soi-même, quand on a commencé à avoir l'habitude des icônes anciennes, et même on voit, on essaye de faire pareil, si tu veux, on essaye d'appliquer les mêmes choses, on n'y arrive jamais. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Il faut vraiment que Dieu donne quelque chose. Sinon, tout au moins, si ce sont des icônes originales. Quand je dis originales, je ne veux pas dire exceptionnelles parce qu'elles ne ressemblent à aucune autre. Ce n'est pas ça que je veux dire. Au sens de l'originalité contemporaine, il faut être original, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qui nous exprime nous, qui ne ressemble à rien d'autre. Pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce sont des icônes originales, c'est-à-dire une icône qui n'est pas une copie d'une autre icône. C'est une vraie. Tu vois ? C'est quelque chose vraiment qui est donné d'en haut. Et je dirais même que quand on peint vraiment, même en copiant, c'est-à-dire en étant... Parce qu'il faut bien copier d'abord, parce qu'il faut apprendre. Alors, on ne copie pas forcément un modèle, on copie plusieurs modèles, par exemple. On s'inspire pour faire quelque chose. Et donc, là, dans ce travail, qui est quand même un travail plus ou moins de copiste, quand même, on ne reproduit pas, mais on copie, en un sens. Et bien là, même, il faut que la grâce de Dieu intervienne. Parce que s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. C'est vide. C'est vide ou c'est faux. Et attendre les choses les plus simples. Hein. Des gens qui ne savent pas du tout dessiner, par exemple, il y en a une qui est venue, la pauvre, la première fois, elle a passé les 3 heures du cours à dessiner un rond pour faire l'auréole. Voilà. Et encore, je l'ai aidée beaucoup. Mais la fois d'après, elle a commencé à poser, je l'ai aidée aussi, j'ai mis le contour, ça. Elle a commencé à poser le visage du Christ, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est passé, c'était extraordinaire. Et c'était une vraie rencontre avec le Christ pour elle. Elle pleurait, vraiment, c'était étonnant. Et Dieu sait si c'était simple, c'était maladroit, c'était... Mais bon, comme les icônes des vieux croyants, par exemple, des icônes qui sont souvent très, très rudimentaires, très maladroites, pas du tout techniques, mais qui sont pleines de Saint-Esprit.
Il y a des superbes, enfin peut-être pas avantages, mais tu le disais très bien, après quand on regarde les choses différemment, et surtout ce qui nous entoure, l'art également, on a une vision
plus
spirituelle, et on a l'impression de demeurer dans le Christ constamment quand on regarde ce qui nous entoure.
Tout à fait.
C'est extraordinaire.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est aussi qu'on s'aperçoit que quand on regarde d'autres choses, on se salit.
Voilà.
C'est-à-dire, quand par exemple dans une exposition ou dans un musée, on va d'abord voir les icônes anciennes, hein, et puis ensuite on passe des icônes qui sont moins rigoureuses, et ensuite on passe par exemple l'art du 18e. Et on ne peut pas continuer à regarder, sinon on va perdre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. On s'est identifié avec quelque chose, il y a quelque chose qui nous a guéri, qui nous a soigné intérieurement, et ensuite on retombe dans du poison. On est empoisonné. Empoisonné par les yeux. C'est pour ça qu'on a une grande richesse. Et alors nous, ici, on a une richesse extraordinaire. Parce qu'avec Ouspensky et Père Grégoire, on a deux hommes qui ont retrouvé tout ça alors que c'était totalement disparu, totalement oublié. Et qui ont... Vous savez, Ouspensky, il a essayé de peindre une icône alors qu'il n'était pas croyant. Et il s'est aperçu que c'était un blasphème, que c'était horrible. Et donc il a brûlé ça. Et donc après, il a voulu comprendre qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il était, dans sa jeunesse, il était avec les jeunes communistes en Russie, il rentrait dans les maisons, il jetait les icônes par la fenêtre, il les brûlait. Donc c'était vraiment, lui était vraiment un iconoclaste. Et ensuite, venu ici, d'abord il a commencé par découvrir l'art égyptien au Louvre, qu'il a trouvé absolument extraordinaire. Ensuite, il a découvert l'art roman, que ça lui a beaucoup plu aussi. Et ensuite, finalement, il est arrivé vers les icônes. Il a essayé de peindre une icône en étant incroyant. Il s'est aperçu que c'était un blasphème. C'est-à-dire qu'il a senti quelque chose qui n'allait pas du tout. Et à ce moment-là, il n'était donc toujours pas croyant. Et donc, il allait tous les jours chez un antiquaire qui avait de très très belles icônes anciennes. Et il les regardait, il les analysait autant qu'il pouvait pour essayer de comprendre comment c'était fait. Et puis il s'est converti ici parce qu'un jour il est rentré, donc du temps où c'était une cave, c'était chez nous, c'était très, très misérable. Et donc il y avait un chœur qui chantait des mélodies anciennes, et il y avait une icône du 19e siècle qui n'était pas très très belle, mais qui était très canonique. Il est rentré, il a vu, il a entendu que c'était le même mouvement. Le mouvement de la musique et le mouvement du dessin et de la peinture, c'était la même chose. Et du coup, son cœur s'est ouvert. Il a été converti comme ça.
Qu'est-ce qu'ils ont chanté?
Ah, mais je ne sais pas. Mais peut-être des choses très simples. Les tons, mais les tons habituels, tu vois, qui sont des tons très anciens, absolument, qui nous viennent directement de Byzance avec quelques transformations. Pardon? Oui, ben justement, il faut éviter de les changer, de faire des fioritures, d'arranger, etc. Autant que possible,
même
les garder.
L'organisation le plus simple, c'est déjà certains.
Oui, mais par exemple, tu reconnais très très bien, il y a certains tons byzantins très anciens qu'on ne chante pas beaucoup en Grèce parce qu'ils sont plus agréables à l'oreille, on a perdu ce goût-là complètement. Et tu vois que c'est exactement, tu transposes dans un registre différent le ton 4, par exemple, et toc, c'est exactement ça. Alors, il y avait quelques intermédiaires, tu vois, c'est très très très, très simple à reconstituer. Mais les tons, comment dire, comme par hasard, les plus simples, et tu vois, voilà. Donc, on peut retrouver. Alors, bien sûr, il y a toujours les arrangements, les voilà. Mais donc, Ouspensky, il a senti quoi? Qu'est-ce qu'il a senti? Il a senti que c'était le même auteur. C'est-à-dire, quand tu vois l'étoile d'un même peintre, même à des périodes très différentes qui ont fait autre chose, si tu veux, tu dis, ah oui, ça, c'est lui, c'est sa main. On reconnaît la main. Et là, entre l'icône et le chant, il a reconnu la main du Saint-Esprit. Et du coup, il s'est converti, et donc il a commencé à regarder. Et alors, comment est-ce qu'il a fait la différence entre les icônes canoniques et les icônes pas canoniques? Tout simplement parce que les icônes canoniques sont des icônes qui guérissent. Pas seulement parce qu'elles sont thaumaturges au sens où il y a des icônes miraculeuses, mais au sens où le dessin lui-même, la couleur elle-même, est quelque chose qui te guérit. C'est-à-dire, ce que tu vois te guérit comme tel. Parce que c'est dessiné comme ça et pas comme ça. Parce que c'est, voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'il a cherché à comprendre. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, il a cherché à peindre de cette façon. Et qu'en fait, sans le vouloir, de manière totalement involontaire, il a créé un style. Et pourquoi il a créé un style? Simplement parce qu'il a cherché à incarner ce sens spirituel avec les moyens qu'il avait. Donc il savait pas comme ça, il savait pas comme ça, il n'avait pas des photos. À l'époque, il y avait très peu de photos. Donc il avait appris un peu la tempéra à l'œuf, justement, avec Fiodorov et Père Grégoire, ils étaient ensemble, et il a essayé comme ça. Alors au début, ils se sont beaucoup inspirés de l'art roman. Donc il y a un certain nombre d'icônes dans notre iconostase qui ont été retouchées par la suite, mais qui ont été conçues comme quelque chose de proche de l'art roman. Et puis très vite, ils se sont aperçus que l'art roman n'était pas traditionnel. Il y a un certain nombre de choses qui sont communes, mais ce n'était pas traditionnel. Et donc ils ont modifié jusqu'au moment où ils sont arrivés à ça. Et bien sûr, Père Grégoire avec le côté totalement prophétique et inspiré, et Ouspensky avec le côté plus crucifié, plus souffrant, mais comment dire. Et tous les deux, ils ont créé un style, il n'y a absolument aucun doute, mais ils sont très différents les deux. Quand on apprend à regarder petit à petit, on voit bien que on ne peut pas les confondre. Mais en même temps, c'est voilà. Et donc, ils étaient très attachés à cette idée qu'en fait, vouloir copier les styles, c'est pas bien du tout. Parce que copier un style, ça veut dire changer de peau. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est intégrer la vie et l'exprimer avec les moyens qui sont les nôtres ici et maintenant. C'est beaucoup plus exigeant. Parce que si tu copies quelque chose d'ancien, si tu veux, tu peux, t'as pas besoin de faire l'effort de la vie pour être conforme. Toi. Alors que là, tu es obligé de donner la vérité de toi. Toi. D'accord. Autre question? Non? On s'arrête? Pour échapper à cette musique qui nous martyrise.
C'est très intéressant.
C'est bon chant pour la mère de Dieu?
Oui.
Господи помилуй, Господи помилуй.